Donc, je vous avais laissé la dernière fois en présence d'une flotte franco-britannique qui prend position au large d'Alexandrie à fin mai 1882. Et la première question qui va se poser est de savoir si les Égyptiens sont-ils ou non en train de renforcer les fortifications d'Alexandrie. Et dès le 5 juin, le Khédive transmet au Rami Pacha un message disant qu'il ne faut pas toucher aux fortifications d'Alexandrie parce que si on y touche, les Anglais vont réagir avec violence. Et au Rami Pacha répond au Khédive qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'on a simplement des travaux d'entretien réguliers qui sont faits aux fortifications d'Alexandrie et pas plus, et que ces travaux sont nécessaires pour assurer la protection d'Alexandrie et de l'Égypte. Et l'étape suivante, c'est l'arrivée d'un haut commissaire ottoman, Dervish Pacha, chargé en quelque sorte de raccommoder les positions des uns et des autres pour éviter une intervention étrangère. Dervish Pacha arrive au Caire le 8 juin 1882. Abdelhamid ne veut pas d'une intervention militaire ottomane en Égypte. Il n'en a pas les moyens et surtout, ça le ferait paraître être un traître à l'islam et un instrument de la politique européenne. Donc, Dervish essaye de naviguer, si j'ose dire, entre les uns et les autres pour essayer de trouver une solution politique qui irait soit un exil de Rabi, soit une déposition de Tewfik. Et c'est dans ce contexte que vont se produire les événements d'Alexandrie. Alors, d'abord, pour comprendre la nature des événements, il faut voir l'évolution d'Alexandrie. Alexandrie, c'est une de ces villes champignons du XIXe siècle liées à la relance des... Enfin, à l'expansion extrêmement rapide du commerce, puisque, vous voyez, on estime que la population d'Alexandrie était de 8000 habitants en 1798, 12000 en 1821, 52000 en 1835, 110000 en 1848, 200 000 en 1868, et donc vers 1880, de l'ordre de 222 000. C'est la quatrième ville de la Méditerranée à l'époque, après Marseille, Istanbul et Gênes. Je pense que ces chiffres sont faux, parce que Naples doit être aussi quelque part, hein, au rang d'ailleurs, mais bon. Enfin, c'est une des villes importantes de la Méditerranée. Le boom du coton durant la guerre de sécession a attiré à Alexandrie une foule de populations hétérogènes, soit venues de toute l'Europe du Sud, des Italiens, des Grecs, des Maltais, etc., soit des Levantins au sens strict, au moyen du terme, c'est-à-dire des Syro-Libanais. Alors, dans les textes, on utilise Levantin soit pour les Syro-Libanais, soit pour l'ensemble de ces populations syro-libanaises et européennes se trouvant en Égypte. Le terme est un peu vague, sauf que ce sont des étrangers, même s'ils sont ottomans dans le cas des syro-libanais. Alors, ces immigrants, en particulier les Grecs et les Italiens et les Maltais, ont une réputation justifiée d'être prompts à la violence et à l'émeute. Les clivages sont à la fois religieux et fissionnelles et ils sont prêts à se saisir des armes, d'autant plus qu'ils sont protégés par les capitulations qui les mettent hors de portée de la police égyptienne. Et donc, ça crée une insécurité permanente à Alexandrie. Et quand les Européens se plaignent, les autorités égyptiennes disent « Nous, on n'y peut rien, c'est à votre faute avec vos capitulations. On n'a pas le droit d'intervenir pour remettre de l'ordre devant ces éléments quasiment hors la loi. » En plus de la question religieuse, ces Levantins, au sens large du terme, sont haïs de la population égyptienne parce que c'est eux qui, dans tout le delta du Nil, pratiquent l'usure rurale et ruinent la paysannerie égyptienne étant protégée par les capitulations et par les tribunaux mixtes. Alors, les événements du 11 juin 1882 ont été présentés comme le produit d'un complot, soit venu du Khedive, soit des Britanniques, soit du Parti national, et aucune preuve n'a pu être fournie dans ce sens. On ne voit pas pourquoi les nationalistes auraient provoqué des troubles, alors que justement c'était la pire chose qui pouvait se produire pour eux. La piste khediviale a été jugée plus probable, mais incertaine, parce qu'on n'a que des éléments circonstanciels et non pas de preuves définitives. Alors, la ville d'Alexandrie, c'est la ville de Levantin, mais il faut être bien simple, la majorité des habitants sont malgré tout des musulmans égyptiens. Ces Levantins sont haïs, et la tension provoquée par la lutte de pouvoir au Caire s'est évidemment reproduite dans la ville. Et facteur supplémentaire de tension, l'arrivée de la flotte franco-britannique au large. Pour les Européens, l'arrivée de la flotte veut dire qu'il y avait bien un danger, parce que s'il n'y avait pas de danger, on n'aurait pas envoyé une flotte pour les protéger. Pour les indigènes, la flotte signifie une intervention militaire européenne dans un temps très proche. Du coup, les consuls de Grèce et de Grande-Bretagne à Alexandrie ont poussé leurs concitoyens à s'armer devant les risques parce qu'on a peur d'un massacre. Le 10 juin, Abdallah Nadim, le grand orateur du Parti national État Alexandrie, fait un grand discours devant 10 000 personnes s'en prenant violemment aux interventions étrangères et évoquant assez clairement une déposition du Khedive. Mais le soir même, il a quitté la ville pour revenir à Alexandrie. Le 11 juin est un dimanche, donc jour de repos forcé, aussi bien pour les travailleurs indigènes que pour les prolétaires méditerranéens. Alors, on a deux versions du déclenchement des événements. La première, celle donnée par Ninette, qui était à Alexandrie ce jour-là. Donc, je cite le texte de Ninette. « Hier dimanche, vers 2 h de l'après-midi, au sein d'un quartier très populé et où l'élite des habitants ne passe guère, une querelle eut lieu entre un Maltais, les Maltais sont sujets britanniques, et un ânier, à propos de quelques sous que le premier refusait de payer pour sa monture. On crie beaucoup ici, quelques mots de cru furent échangés. Le Maltais, selon l'usage, maudit la religion du prophète et l'indigène, celle du chrétien. Cela a lieu tous les jours. Sur quoi le Maltais, autorisé à se protéger, sortant un revolver de sa poche, étendit raide mort le bourriquier. La foule était compacte, les brasseries pleines, vous vous imaginez les cris. Aussitôt, les Grecs, armés de couteaux et de pistolets, entrèrent en scène avec quelques calabrais. Les natifs, qui n'avaient que des bâtons, s'en servirent et tapaient rude, pendant que les chrétiens se défendaient. La garde vint, un soldat eut la tête à moitié emportée par un tromblon tiré par un grec. Arrivèrent les municipaux, c'est-à-dire les policiers municipaux, qui tombaient blessés comme des mouches. Donc ça, c'est la version ninette, proche d'Arabie. L'autre, la thèse opposée, je vous citerai le texte du représentant du consul de Grèce qui sur place, qui parle d'affrontement entre des fellahs porteurs de bateaux et des Européens se défendant avec des poignards. La mort d'un arabe avait provoqué l'explosion de violence de la part des indigènes. Je cite, « La plupart, sans culottes ni souliers, appartenaient à la plus basse classe de la société, celle des hamals, les porteurs, des âniers, des portiers et des bateliers. Ces cannibales, divisés en diverses bandes, inondèrent peu à peu toute la ville, vomissant contre les chrétiens les pires insultes et criant « mort aux chiens ». Ils avaient comme chef quelques arabes demi-nus, « arabe » ici signifie « bédouin », tenant à la main un lambeau d'étoffe jaune, soi-disant drapeau, ou une canne de fer dont le bout formait un serpent. Ceux-ci étaient de ces saints africains qui, n'ayant que la ceinture couverte par un chiffon, traversent toute l'Égypte, ne gagnant leur vie que par l'aumône. C'était eux qui donnaient le mot d'ordre de l'attaque contre les Européens qui traversaient les rues, ainsi que du pillage des magasins. Ce qui semble clair, c'est qu'on a des combats qui ont été déclenchés par un incident entre les Maltais et les Grecs d'un côté et les Égyptiens de l'autre, les chrétiens ayant des armes à feu et les Égyptiens n'ayant que des bâtons. Et de ce premier combat, la violence s'est répandue dans l'ensemble de la ville. Et donc, dans tous ces actes, on a à la fois des assassinats, des morts, et en même temps, on a l'inverse, comme souvent des musulmans protégeant des chrétiens contre les émeutiers, parce que les situations sont toujours très contrastées dans ce genre d'événements. Les consuls essayent d'intervenir, mais ils n'ont aucun moyen, et même le consul de Grande-Bretagne est blessé, ainsi que celui d'Italie et de Grèce, et les chrétiens tendent à se réfugier vers les consulats. La gendarmerie locale, les Mustafazine, ont rejoint les émeutiers parce qu'ils se sont fait tirer par les Maltais. Et donc, ils considèrent que les Maltais et les Grecs sont leurs ennemis. Et ce n'est qu'à la fin de la journée que l'armée se trouve en possibilité de rétablir l'ordre, quand seulement des instructions sont venues du Caire pour donner aux militaires l'ordre de reprendre le contrôle de la ville. Alors, le délai doit être compris comme comprenant l'annonce par télégraphe de l'émeute et le temps d'atteindre les responsables. Il y aura un débat postérieur et non résolu, à savoir à qui les premiers télégrammes ont été envoyés, au Khedive ou à Orabi. Il semblerait que Orabi était le dernier à être informé des événements et qu'il a réagi immédiatement. En fait, ce qui complique la situation, c'est qu'on est pratiquement dans une situation de double pouvoir et que les autorités locales ne savent plus à qui s'adresser. Entre le Khedive ou entre le ministre de la guerre. Les militaires égyptiens se portent garant d'ordre à condition que la flotte européenne n'intervienne pas. Et les consuls demandent aux amiraux français et anglais de ne prendre aucune précaution apparente. On est dans la modernité, hein, puisque le consulat de Grande-Bretagne est relié par câble au navire de guerre où se trouve l'amiral britannique. Donc, ils se parlent par téléphone. Nous sommes en 1882. Dans la nuit, l'amiral britannique, l'amiral Seymour, S-E-Y-M-O-U-R, c'est un descendant des fameux Seymour du XVIe siècle, vous savez, de la famille des dernières épouses d'Henri VIII. Annonce l'envoi d'une force de marins pour protéger le consulat, mais l'arrivée de soldats britanniques pourrait reprovoquer du désordre, et donc les consuls interviennent. Et au dernier moment, les marins qui étaient sur le point de débarquer rembarquent et reviennent sur leur bateau. Donc le lendemain, on discute entre le consul et les autorités égyptiennes. selon le consul de France. À 7 heures, les consuls convoqués chez le gouverneur s'y réunirent en présence des commissaires et des colonels. Ceci répondant toujours de l'ordre, aux mêmes conditions, je déclarai pour ma part que la veille au soir, dès que l'armée eut montré qu'elle pouvait et voulait maintenir l'ordre, je m'étais entendu avec l'amiral français dans ce sens. Le représentant du consul anglais donna des assurances analogues. Une proclamation fut ensuite signée par tous les consuls, exprimant leur confiance dans l'armée et invitant les étrangers au calme et à la prudence. Alors, même si l'armée contrôle le premier port de l'Égypte, la tranquillité n'est absolument pas rétablie. En fait, les événements provoquent une fuite en masse des Européens d'Alexandrie et du coup du reste de l'Égypte, parce que les Européens du reste de l'Égypte affluent vers Alexandrie pour aller s'embarquer sur les navires européens, comme vous voyez sur cette gravure. La panique d'Alexandrie, les navires en partance pris d'assaut par les Européens fuyant la ville. Le bilan définitif de l'émeute ferait une cinquantaine d'Européens tués et d'un plus grand nombre d'indigènes. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un massacre systématique de chrétiens par des musulmans, plus le fait que le problème, c'est que pour les Français et les Anglais, ils font quand même une distinction entre les vrais Européens, c'est-à-dire eux, les Européens de l'Ouest, et puis les Européens comme les Grecs ou les Maltais, qui ne sont pas considérés quand même comme des vrais Européens, même s'ils bénéficient des capitulations. On est quand même en 1882. La question est de savoir c'est comment punir, qui sont les coupables et comment les punir. L'étude de la presse anglaise est instructive. Les premiers comptes rendus sont purement factuels. On va même jusqu'à dire qu'il ne faut pas confondre les respectables Européens de l'Ouest avec cette faune interlope d'origine indéfinissable qui se prétend être européenne. De fait, il n'y a eu que 6 Britanniques de naissance tués, dont 3 marins, et que la plupart des autres Européens tués n'ont pu être identifiés, ce qui indique une origine douteuse. Puis, progressivement, à ces premières dépêches factuelles, on passe à une théorie du complot, avec un massacre préparé à l'avance en collusion avec les forces de l'ordre qui sont restées inertes. Et on multiplie dans la presse le nombre de victimes effectives par plusieurs, donc des 50 morts deviennent plusieurs centaines de morts dans la presse britannique. Donc là, vous avez des gravures représentant des éléments d'Alexandrie au lendemain de l'émeute. Donc, tout le monde voit des complots, mais on ne sait pas les deux qui, c'est le Khedive, les Arabistes, les Britanniques, les Français considère qu'il y a peut-être un complot anglo-turc pour justifier une intervention turque. Il semble qu'en fait, tout simplement, l'émeute a été provoquée par la tension nerveuse, enfin la tension provoquée par les événements qui a monté et la haine très forte entre les Levantins et les indigènes. Au Caire, le Khedive et Darwish Pacha se réunissent avec Sharif et les consuls, puis avec Orabi, pour s'engager à assurer le maintien de l'ordre. Mais c'est un raccommodement de façade parce que maintenant, Tewfik ne compte que sur une seule chose, c'est une intervention militaire européenne pour le rétablir dans son autorité. Puis le Khedive et Darwish se rendent à Alexandrie. Tewfik se trouve donc maintenant à proximité de la flotte britannique et française, alors que les Européens ne voulaient pas qu'ils soient à proximité, parce que s'ils étaient à proximité, c'était un signe de collusion. La tension demeure, parce que si le calme a été rétabli, on ne sait pas si l'émeute ne peut pas reprendre d'un moment ou un autre. On notera pour une fois, c'est un signe intéressant, que l'Allemagne impériale n'ayant pas de navire de guerre à Alexandrie, a demandé à la France d'assurer la protection des ressortissants allemands, ce que la France républicaine a bien volontiers accepté. Ce qui est un geste intéressant dans l'état des relations franco-allemandes durant la période. Donc, on essaye de multiplier les médiations et de calmer la situation. Néanmoins, le 20 juin 1882, Ourabi Pacha entre à Alexandrie, applaudi par la population. Et on décide d'une réunion, d'une conférence des ambassadeurs à Constantinople pour régler la situation en Égypte. Puisque dans la question d'Orient, ça se termine toujours, enfin, ça passe toujours par une conférence des ambassadeurs. Ce qu'aujourd'hui on appellerait Genève 1, Genève 2, Genève 3. Ah, bon, à l'époque, ça s'appelle une conférence des ambassadeurs. Car ce qui est en jeu au-delà des événements, c'est le prestige européen. Comme le dit le consul de France le 20 juin, il y a d'ailleurs un fait capital qui domine toute la situation et on ne saurait retenir compte. Le fait, c'est que l'armée égyptienne a pu mépriser les remontrances des deux puissances occidentales et que des Européens ont pu être massacrés en présence des escadres combinées sans qu'il en résultât la moindre conséquence fâcheuse pour les Égyptiens. Il nous est absolument impossible de rester sous le coup de pareilles avanies. Ce serait rendre l'Égypte inhabitable pour les Européens. Je rappelle qu'avanie, c'est un vieux terme, tiré de l'arabe d'ailleurs, qui signifie toutes les méchancetés que les Orientaux font aux Européens dans l'Empire ottoman. Donc c'est passé dans la langue courante en français. Mais au départ, c'est les mauvais sorts que reçoivent les Européens dans l'Empire ottoman. C'est pour ça que dans les textes du XVIIIe siècle, on trouve toujours des formules comme « c'est toujours les mêmes qu'on avanise ». Le consul pose le problème que ce n'est pas simplement des officiers indisciplinés aux révoltes qui sont en jeu, c'est un mouvement pan-islamique qui risque de s'étendre à toute l'Égypte et au-delà. Donc, si on veut arrêter l'explosion pan-islamique, il faut agir tout de suite. Blount à Londres est informé jour par jour des événements par son représentant Sabounji, l'ancien curé devenu journaliste et professeur d'arabe, qui est aussi le représentant et l'informateur de Blount, et qui donc lui envoie par télégramme. Et dans les télégrammes, Sabounji dit qu'une intervention militaire ottomane provoquerait un soulèvement général de l'Égypte, aussi bien contre les turco-circassiens que contre les Européens. Le problème, c'est que les télégrammes sont toujours lus par les autorités britanniques. Sabounji veut informer Kourabi et son entourage, dont Abdallah Nadim et Mohamed Rabdou, veulent un gouvernement républicain en Égypte. De toute façon, Blount transmet les télégrammes aux autorités britanniques qui les ont lus auparavant, mais ça, c'est pas grave, c'est une question de principe. Le consul britannique Mallette, lui, tombe malade de malaria et doit être évacué en Europe. Alors, certains soupçonnent une maladie consulaire, enfin, mais il semble qu'il soit réellement malade et que c'est un coup de malchance, ce qui fait qu'il n'y a plus que le contrôleur financier britannique Colvin qui est en place, mais celui-là est vraiment totalement hostile au mouvement national et encore plus intransigeant. Le problème, comme le dit l'amiral français, l'amiral Conrad, voilà, qui est... c'est que on a bien les navires de guerre, mais on n'a pas de soldats. Donc, on ne peut pas débarquer des forces Alexandrie. À Londres, c'est la confusion la plus totale dans le gouvernement britannique. Et là encore, il faut noter que c'est l'aile gauche du gouvernement libéral, c'est-à-dire les radicaux, comme Dilk et Chamberlain, qui militent le plus activement pour une intervention militaire en Égypte. Vers le 20 juin, Gladstone est toujours plutôt partisan d'une intervention ottomane, mais le discours des radicaux est de dire que ce qui est en jeu, ce n'est plus la dette égyptienne, c'est le prestige de l'Europe. Et que si on a cédé, si on cède devant l'Égyptien, on sera obligé de céder devant tout le monde par la suite. Et il faut assurer la sécurité du canal de Suez. Donc il n'y a pas de décision qui est prise à Londres parce qu'il y a une division du gouvernement britannique. Ce qui va se passer, c'est la marge de manœuvre laissée au commandant de la marine britannique en Méditerranée, qui est maintenant en poste devant Alexandrie, Sir Beauchamp Simon, qui, comme le note l'ambassadeur de France à Londres, le 16 juin, Lord Granville m'a également prévenu qu'il avait fait savoir à votre excellence par l'intermédiaire de Lord Lyons, qui est l'ambassadeur britannique à Paris, que le commandant en chef des forces navales anglaises avait été autorisé à prendre, en cas d'événement grave, toutes les mesures nécessaires, y compris la mise à terre de compagnies de débarquement. Et donc, l'ambassadeur de France comprend dans l'affaire que les radicaux sont en train de préparer une intervention qui n'a pas encore été décidée officiellement à Londres. D'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est que Londres commence à prendre la décision d'envoyer des détachements militaires à Malte au cas où. Donc on va commencer à embarquer des soldats britanniques à destination de Malte, puisque Malte est une possession britannique, comme tout le monde sait, depuis 1801, quand les Anglais nous l'ont pris. Nous les avons pris en 1798 à l'ordre de Malte. Bon, nous sommes restés que 2 ans. Selon Blount, dans son histoire secrète, Gladstone aurait pris sa décision définitive dans la dernière décade de juin 1882, mais les archives sont plus évasives sur ce point. On trouve des affirmations dans les archives comme la nécessité de maintenir le prestige britannique et européen, la protection du canal de Suez, la menace pan-islamiste qui risquerait de s'étendre jusqu'à l'Inde, mais on n'a pas de décision. Blount obtient la publication d'une lettre dans le Times le 23 juin dans laquelle il s'en prend aux représentants britanniques en Égypte, tandis que l'opposition menée par Lord Salisbury marque les 100 exemples dans l'histoire de la Grande-Bretagne que des Anglais soient massacrés à la portée des canons d'une flotte anglaise. Nous ne pouvons renoncer à ce qu'il soit fait droit à cette demande, la déposition de Rabi, sans porter atteinte à notre autorité en Orient, aux Indes, au Japon et en Chine, dans le monde entier enfin. Notre puissance a été respectée parce que nous l'avons exercée. Mais si l'on s'aperçoit que nous manquons d'énergie, nous descendrons rapidement de cette pente qui mène de l'empire au mépris. Dans le langage d'aujourd'hui, on dit on a fait une ligne rouge, elle a été traversée. Si nous ne réagissons pas, nous n'aurons plus aucun poids. Lesseps, qui est à Suez, enfin à Smyrna, s'inquiète de la campagne de presse en Europe qui affirme que la liberté et la sécurité du transit par le canal de Suez est en danger. Il dément vigoureusement l'existence de ce danger, mais l'ambassadeur britannique à Paris prévient Freycinet qu'on pourrait étudier la question d'une occupation conjointe franco-britannique de l'isthme de Suez. Freycinet répond qu'à sa connaissance, il n'y a pas de menace sur le canal et qu'occuper le canal risquerait de conduire à une occupation totale de l'Égypte. Et donc, la situation est telle quelle, pas de décision en Europe, des renforcements militaires, des campagnes de presse. Le consul de France au Caire voit une menace pan-islamiste qui serait liée aussi au Senoussi, à la confrérie Senoussia, qui se trouve en Libye et qui pourrait s'étendre à la Tunisie et à la Tripolitaine. L'amiral Corrad, le français, dit qu'il faut donner une leçon à ces Égyptiens. Je cite, « Les janissaires modernes d'Arabie Pacha devront être détruits d'une façon ou d'une autre. » Il ne sera qu'au prix d'une sanglante leçon que l'Égypte sera rendue à la civilisation et à la prépondérance européenne. Sans cela, c'en est fait de cette dernière. Ce qui provoque l'agacement de Freycinet, qui rappelle le consul de France et qui en envoie un autre, M. de Vorges, remplacer Sienkiewicz comme consul. Donc c'est plus facile à écrire quand on passe à Vorges. Le 23 juin s'ouvre à Constantinople la conférence des ambassadeurs, des six, France, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Hongrie et Russie, toujours à six parce que ce sont les six signataires du traité de Paris de 1856. Donc c'est toujours la base des six. Alors le Piémont est devenu l'Italie et la Prusse est devenue l'Allemagne, mais on parle toujours des six en référence au traité de Paris. Le 25 juin, très noblement, les six signent un protocole de désintéressement. C'est-à-dire que s'ils font quelque chose, ce n'est pas dans leur intérêt et qu'ils n'ont aucune envie d'occuper, enfin de s'emparer de l'Égypte. Le 27, les Britanniques font un amendement au protocole, une réserve. Pendant la durée de la conférence, les puissances s'abstiendraient de toute entreprise isolée en Égypte sous la réserve d'un cas de force majeure telle que la nécessité de protéger la vie des nationaux. Très vite, il devient clair que Abdul Hamid refuse toute intervention militaire ottomane en Égypte. Il refuse même de participer à la conférence qui s'est ouverte à Constantinople. Alors, on a donc la situation très diplomatique. On a une conférence qui travaille sur un projet d'intervention militaire ottomane alors que les Ottomans refusent cette intervention. On a essayé d'expliquer, il n'est pas possible pour le sultan d'apparaître combattre des musulmans au profit de non-musulmans. Et à cette occasion, donc, Abdul Hamid fait rédiger un manifeste affirmant qu'il n'existe pas de tribalisme, kaumiyet en turc, kaumiyet en arabe, ou de nationalisme, jinsiyet, jinsiyet en arabe, en islam. Obéir au calife, c'est obéir au calife. Quant à la presse arabiste au Caire, elle dit que si les Ottomans interviennent, on se battra encore plus que si c'était des Européens. Donc, fin juin, début juillet, il y a dans l'air cette intervention militaire européenne qui n'est toujours théoriquement pas décidée. D'où une accélération de l'exode des Européens d'Égypte. Accroissement des navires de guerre devant Alexandrie, puisque, par exemple, tous les navires de guerre américains en Méditerranée affluent à Alexandrie pour assurer l'évacuation des ressortissants américains d'Égypte. Pour mémoire, en dehors de la guerre de sécession, de la période de la guerre de sécession, il y a toujours eu un détachement naval américain en Méditerranée au XIXe siècle. En général, il avait comme port d'attache les ports des Baléares, avec un accord avec les Espagnols de l'époque. Il y a aussi d'arriver de nouveaux navires de guerre de Méditerranée, évidemment paralysés, enfin, britanniques de Méditerranée, et puis l'économie égyptienne est paralysée. Les musulmans interprètent le départ des Européens comme l'annonce d'un bombardement imminent de la ville, ce qui provoque des tensions, ce qui provoque le départ d'autres Européens, ce qui provoque de nouvelles tensions, vous voyez évidemment les mécanismes d'engendrement. Vous avez les spionites, les Anglais envoient en effet des officiers de renseignement sur place pour voir quelles sont les positions militaires de l'armée égyptienne. Vous avez donc un certain Tulloch, qui est un officier britannique de renseignement, mais pour la grande histoire, ce n'est pas lui qui compte, c'est son adjoint, un jeune officier plein d'avenir qui s'ennuyait à faire des relevés topographiques à Chypre et qui s'est éclipsé de son poste de Chypre pour rejoindre les Britanniques, c'est Horatio Kitchener. Et donc Kitchener et Tulloch, qui parlent tous les deux l'arabe, se font passer pour des Levantins dans le Delta pour relever les positions de l'armée égyptienne. Le résultat, c'est que de pauvres vrais Levantins se font lyncher par des Égyptiens qui les prennent pour des officiers britanniques, ce qu'ils ne sont pas. Mais il y a bien des officiers britanniques déguisés en Levantins qui font de l'espionnage. Donc là, c'est l'amiral Conrad, vous voyez, beau et noble amiral, 3e République en grand uniforme, avec ses favoris tout à fait 1880. Quand le nouveau consul de France arrive en Égypte, l'amiral Conrad lui affirme que les Anglais cherchent manifestement à provoquer un conflit et que la flotte française risque de se trouver prise entre deux feux. En effet, Paris ordonne à l'amiral Conrad de ne participer à aucune action sans ordre direct du gouvernement, à l'exception des mesures de défense, évidemment. Cela implique donc qu'en cas de danger, les navires français s'écartent des navires britanniques. Alors, tout va dépendre de l'attitude de Sir Beauchamp Seymour. Depuis plusieurs jours, il est revenu à la charge auprès de Londres pour dénoncer le danger que constitueraient les travaux égyptiens sur les fortifications d'Alexandrie. Le 3 juillet, il obtient de Londres l'instruction d'informer le gouverneur d'Alexandrie que la continuation des travaux ou toute tentative de fermer le port serait considérée comme un acte hostile et traité comme tel. Les Français interprètent immédiatement cette instruction comme l'annonce d'un bombardement imminent de la ville. À dire vrai, on n'en trouve pas d'autre explication, puisque selon le gouvernement égyptien, il n'y a pas de travaux de fortification en cours à Alexandrie et que les autorités consulaires britanniques demandent à leurs ressortissants d'évacuer d'urgence Alexandrie et le Caire dès que le signal sera donné. De son côté, la porte, la sublime porte, envoie un télégramme urgent aux Égyptiens d'Alexandrie disant « Cessez de faire de travailler sur les fortifications s'il y a des travaux. » Mais en fait, il n'y a pas de travaux de fortification d'Alexandrie. Delk, je ne sais pas comment on prononce cet individu qui est à Londres, lui informe directement le Khedive des différentes résolutions du gouvernement britannique court-circuitant la voie officielle et consulaire. Les instructions de Seymour lui permettent d'agir sans les Français si besoin est. Le 5 juillet, le gouvernement britannique autorise Seymour à adresser un ultimatum si les travaux continuent. Les Français refusent de s'associer à cet ultimatum parce qu'ils ne voient pas de travaux en cours. En conséquence, la flotte française reçoit l'ordre de se retirer du port d'Alexandrie tout en restant dans les eaux égyptiennes. Alors, on a d'abord pensé à aller se retirer à Boukir, mais d'une part, ça laisse des mauvais souvenirs aux Français à Boukir, d'autres, parce que là, la flotte française a été coulée par les Britanniques en 1798, et puis il n'y a pas de télégraphe à Boukir. Donc, les Français décident d'aller à Port Saïd, où ils pourront rejoindre le prochain poste télégraphique. Les Anglais expliquent qu'ils sont en position de légitime défense, ce que dit Lord Grenville, donc le ministre des Affaires étrangères, à Tissot, qui est l'ambassadeur de France à Londres. Le cabinet de Londres ne pouvait pas, en ce qui le concernait, assumer la responsabilité de mettre en danger ni des bâtiments anglais, ni même la vie de quelques marins anglais. Il se considérait dès lors comme dans le cas de légitime défense et ne croyait pas manquer aux engagements pris dans le sein de la conférence. Répondant ensuite à l'observation que les travaux de fortification, d'après nos nouvelles, étaient suspendus, Lord Grenville m'a dit que le sultan venait effectivement de télégraphier à ce sujet dans les termes les plus énergiques, mais qu'il était impossible d'avoir la certitude que ses ordres seraient exécutés, alors qu'Orabi Pacha, etc. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de travaux. Ce qui complique la lecture des archives, c'est qu'après le 5 juillet, le gouvernement britannique semble se désintéresser complètement du comportement de l'amiral Seymour, ou plus exactement, affecte de croire que ces canons constituent une réelle menace pour la flotte britannique. Le 7 juillet, les consuls généraux se réunissent à Alexandrie, sauf le représentant britannique, et les consuls écrivent à l'amiral pour lui faire remarquer les dangers que courra la population chrétienne indigène et les pertes énormes des propriétés européennes qu'entraînera le bombardement. On ne parle pas du reste, évidemment. Les autres populations et propriétés ne sont pas concernées, les consuls, et les consuls, visiblement, ont des doutes sur la sincérité britannique. Nous croyons tous que ces exigences successives sont des prétextes pour avoir un motif d'attaquer avant la décision prise par la conférence de Constantinople. La réponse de Seymour, c'est « évacuez vos ressortissants ». Néanmoins, le bombardement à venir ne concernera que les fortifications. Le 9 juillet, les Britanniques donnent l'ordre aux derniers Européens, enfin, laissent un délai de 24 heures aux derniers Européens pour quitter la ville. Et la mission ottomane avec Dervish Pacha quitte l'Égypte. Et le Khedive, lui, un entretien blâme avec le consul de France, blâme l'ignorance du gouvernement égyptien et donne l'impression de s'accommoder de toute intervention étrangère. Mais il semble seul au Caire aussi de se préoccuper à ce qui se passe dans le Soudan. Je cite, « Il m'a entretenu des désastres éprouvés dans le Soudan par les troupes égyptiennes. 7000 Soudanais ont défait l'armée et lui ont pris 4 canons et 1500 fusils, ont fortifié Khartoum, qui pourrait être prochainement assiégé. » C'est-à-dire que l'insurrection mahdiste soudanaise vient de se déclencher. Et donc, les Égyptiens vont non seulement avoir une intervention européenne, mais une révolte soudanaise. 8 cuirassés britanniques se mettent en position de tir devant le port d'Alexandrie. Le 10 juillet, Seymour envoie un ultimatum demandant que les forts soient livrés aux militaires britanniques. Et il a demandé de l'autorisation de faire ça à Londres. Mais il a envoyé ça le dimanche. Or, le dimanche, il n'y a pas de gouvernement britannique dans cette période. Ils sont tous dans leur résidence campagnarde. Donc, Hitler fera la même chose, il fera tous ses cool week-ends. Parce qu'il savait qu'il faudrait 48 heures pour que Londres réagisse. Et donc, ce n'est pas le hasard qu'on ait choisi le dimanche pour demander des instructions. De toute façon, le principe, c'est de présenter l'affaire comme de la légitime défense. Le gouvernement égyptien, présidé par le Khedive, rejette l'ultimatum et offre de retirer 3 canons du seul fort qui couvre la flotte. Il propose une mission d'inspection britannique pour montrer qu'il n'y a pas de danger. Mais le Khedive, semble-t-il, a joué double jeu parce qu'en même temps, parallèlement, il aurait demandé secrètement aux Britanniques d'intervenir, de bombarder la ville. Les derniers nationaux français évacués, la flotte française quitte Alexandrie pour Port Saïd. Au matin du 11 juillet 1882, les cuirassés se mettent en position de tir. Seymour a installé son commandement sur l'Invincible, le bâtiment le plus récent de la flotte. Voilà. Donc voilà, vous avez les cuirassés britanniques en position devant Alexandrie avant le bombardement. Les forts égyptiens ont reçu pour instruction de ne pas ouvrir le feu. Les premiers, la disproportion des forces était absolument écrasante. À part quelques pièces récentes, les pièces égyptiennes n'ont pas les moyens d'inquiéter des cuirassés de dernière génération. Alors, donc là, vous avez le bombardement d'Alexandrie. Là, vous voyez des grands panaches blancs parce que le bombardement d'Alexandrie, c'est un des derniers épisodes de la poudre à fumer. Puisque à partir de la fin des années 1880, on a inventé la poudre sans fumée, ce qui change complètement toutes les conditions de bombardement. Tandis que quand vous tirez avec vos canons avec la poudre de 1882, au bout de quelques coups de tir, vous ne voyez plus rien. Parce que c'est vos canons qui vous font brouillard. Alors, comme note un rapport des artilleurs français de la revue d'artillerie, tome 20, avril-septembre 1882, on a de bonnes lectures ici. Dans de pareilles conditions, quel que fût le moral des défenseurs, le bombardement ne pouvait être et n'a été, comme le disent tous les journaux anglais, qu'un véritable exercice de tir, dans lequel la flotte a procédé méthodiquement à la démolition de tous les ouvrages, ce qui lui a permis de se rendre compte des effets produits, aussi bien sur les terres que sur les maçonneries, par les gros projectiles de ses bouches à feu, et en particulier par ceux des canons de 80 tonnes de l'inflexible, qui pour la première fois prenait part à une action de guerre. Alors vous notez que c'est encore la navigation mixte, puisque ce sont des cuirassés qui sont à voile et à vapeur, hein, comme vous voyez sur les gravures. L'ouverture du feu a lieu à 7 heures du matin, et donc il résulte que la première salve, après la première salve, les artilleurs britanniques ne voient plus rien à cause de la poudre, d'où des tirs parfois hasardeux et la nécessité de temps à autre d'arrêter les tirs pour que les nuages se dissipent pour savoir sur quoi on est en train de tirer. C'est le problème de la poudre. La poudre sans fumée sera inventée en 1884 et généralisée, ce qui sera une modification complète de toute l'arme, de l'armement en Europe et dans le monde. Donc, les batteries égyptiennes ont répondu sans grand effet et le bombardement dure la plus grande partie de la journée. En pratique, une bonne partie du bombardement loupe les objectifs et tombe sur la ville. Les Anglais ont tiré 3782 obus, plus les tirs des mitrailleuses. Les Égyptiens ont bien tenu sous le feu. Les assaillants ont situé les défenseurs au moins 150 morts et probablement bien plus. Durant le bombardement, ce qui reste de la population européenne est exposé à des violences de la part des habitants de la ville. Surtout, on arrive à un terrible engrenage. Les obus anglais ont provoqué des incendies dans la ville, ce qui attise la colère des habitants et provoque l'exode d'une partie de la population. C'est généralement dans ces cas-là la population la plus aisée qui fuit. Le 12 juillet, les autorités militaires égyptiennes tentent de négocier un cessez-le-feu, ce qui permet de retirer les dernières troupes égyptiennes de la ville. Au soir du 12 juillet, il n'y a plus de force de maintien de l'ordre à Alexandrie et les pillages commencent. Ils sont accompagnés d'incendies. Des soldats en retraite participent aux pillages, même si des officiers tentent d'imposer la discipline. Les violences viennent essentiellement du prolétariat d'origine rurale, qui fait le gros de la population dite indigène. On parle aussi de Bédouins qui seraient accourus pour participer à la curée. C'est très difficile de déterminer l'exactitude de cette information parce qu'entre Fela et Bédouins, il y a une haine terrible et qu'en Égypte, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en particulier dans la région d'Alexandrie, on dit que de toute façon, c'est la faute aux Bédouins. Il faut ajouter aussi qu'on parle de pétroleuses, c'est-à-dire de femmes allumant des incendies avec du pétrole. Probablement qu'il n'y en a pas. C'est un fantasme né de la Commune de Paris en 1871 et qui est répercuté à Alexandrie en 1882. En 1884, Ninette accusera le Khédive d'avoir fait venir les Bédouins et certains éléments étrangers, en particulier des Grecs, d'avoir allumé les incendies afin de profiter ensuite d'indemnisations qui seraient hors de proportion avec les destructions des biens réels. Ce sera un thème récurrent chez les anciens Orabis, comme chez, par exemple, Blount Orabi, enfin Ninette, Mohammad Rabdo, feront cette accusation que ce sont les Grecs qui ont allumé les incendies pour faire d'escroquer à l'assurance, en gros. La répression postérieure incriminera un certain nombre de chefs de guildes, ce qui pourrait indiquer une certaine forme d'encadrement de la violence. Mais on peut aussi supposer qu'il s'agit là de sanctions pour avoir laissé faire l'émeute. En tout cas, le résultat des événements est catastrophique, puisque Alexandrie est complètement dévastée, comme vous allez voir sur ce jeu de photos. Consulat de France, le quartier européen d'Alexandrie, vous voyez toutes ces ruines, on dirait Alep. Voilà donc les dévastations d'Alexandrie avec l'incendie qui se termine le 13 juillet 1882. Et donc les Britanniques, malgré les avertissements des consuls, se trouvent complètement dépourvus face à l'évolution de la situation, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'instruction. Ce n'est que le 13 juillet au matin qu'un premier détachement de soldats britanniques, de Marines américains, pardon, parce que les navires américains étaient là à côté, ils n'ont pas tiré. Donc c'est des US Marines qui débarquent les premiers à Alexandrie le 13 juillet pour s'assurer de l'état du consulat américain, qui débarquent les premiers et qui voient la catastrophe. Le 13 juillet, donc, Londres donne l'ordre à Seymour d'envoyer des forces à terre pour établir l'ordre et éteindre les incendies avec des exécutions sommaires de gens jugés sur place, vrais ou faux, comme étant des incendiaires. Donc vous voyez ici les Anglais Alexandrie, exécution des incendiaires, gravure d'époque. Toutes ces gravures sont de la presse française, hein, ce qui vous montre qu'on est déjà dans une époque où on a une information pratiquement au jour le jour avec, non pas encore des photos, mais des gravures tirées des photos. Donc, non seulement on est en temps réel, mais on a aussi une représentation graphique rapide des événements, même si honnêtement, cette gravure rappelle aussi certains Goya. Donc, on peut avoir aussi une certaine imagination de la part du dessinateur français. Il faudra plusieurs jours pour rétablir complètement l'ordre, d'autant plus que ce n'est qu'à partir du 17 juillet qu'arrivent les premiers contingents britanniques venus de Malte, qui eux-mêmes venaient de Grande-Bretagne, ce qui permet à Seymour de prendre le contrôle de la ville et de faire partir les marins étrangers qui avaient débarqué pour maintenir l'ordre en même temps que les Britanniques, c'est-à-dire des Américains, des Italiens et des Grecs. Donc, le 11 juillet commence la dernière phase des événements, ce qu'on appelle techniquement parlant la révolution arabiste, entre guillemets, puisque le terme de révolution a été un terme retenu par la postérité, mais très peu utilisé par les contemporains. Mais bon, dans l'histoire, c'est devenu la révolution arabiste, même si les acteurs, eux, n'ont pas utilisé le terme de ce point de vue. Donc, le gouvernement égyptien avait proclamé la loi martiale dès le 11 juillet, avec possibilité de réquisition, et annonce que à cause du bombardement, l'Égypte est de facto en état de guerre avec la Grande-Bretagne. Le 12, Wahhabi et Khedive ont eu une entrevue orageuse en présence de Dervish Pacha, avant que celui-ci quitte l'Égypte. Mais à ce moment-là, on aurait demandé une trêve aux Anglais, tandis que le palais du Khedive, qui est à proximité d'Alexandrie, est entouré de soldats. Et le Khedive proteste avec véhémence et obtient que Dorabi, ce qui montre que c'est un médiocre politicien, le rappel des soldats qui entourait le palais khedivial. Le 13 juillet, Orabi prend position avec ses hommes à Kafr el-Dawa, à proximité d'Alexandrie, à proximité du canal Marmoudier, c'est-à-dire du canal d'eau douce qui relie Alexandrie au Nil, puisque Alexandrie se trouve techniquement en dehors du delta. Pourquoi Kafr el-Dawa? Parce que c'est un peu à l'intérieur, c'est-à-dire hors de portée des canons de la marine britannique. Le Khedive hésite entre revenir à Suez ou au Caire, et puis finalement, le Khedive s'échappe et rentre à Alexandrie pour se mettre sous la protection de Seymour, ce qui fait que l'Égypte se trouve ainsi divisée en deux camps, celui des Khedives qui est passé aux Anglais et celui d'Orabi qui organise la résistance. Par dizaines de milliers, les réfugiés d'Alexandrie se dispersent dans le delta, ce qui provoque des émeutes contre les Européens présents dans cette région. 18 Européens seront ainsi tués à Tanta le 13 juillet. Des morts moins nombreux sont enregistrés dans d'autres villes. Des chrétiens sont aussi visés. Wahhabi Pacha fait tout pour interdire de tels actes. Au Caire, l'ordre est maintenu et les Européens et les chrétiens ne sont pas inquiétés. Le 17 juillet, Seymour fait afficher des proclamations à Alexandrie, affirmant qu'il a été chargé par le Khedive de rétablir l'ordre à Alexandrie, et le Khedive en même temps dépose Orabi de ses fonctions, le considérant comme responsable des événements, et le somme donc de se soumettre et de se rendre à Alexandrie. La réponse d'Arabi, c'est qu'il n'a fait que suivre les ordres du Khedive décidés le 10 juillet et que, comme le Khedive est maintenant dans une ville occupée par les Britanniques, il ne peut plus être considéré comme libre de ses mouvements et donc on ne peut plus lui obéir. Et Arabi envoie des télégraphes à l'ensemble de l'Égypte pour proclamer l'état de guerre avec la Grande-Bretagne, la trahison du Khedive responsable de la catastrophe et une réunion générale de tous les notables de l'Égypte pour affronter la situation. Donc, angoisse de votre part, suspense, mais là, ça va être intolérable puisqu'il faut attendre la semaine prochaine pour la suite des événements. Je vous remercie.